Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Si ça peut accélérer les choses pour qu'on puisse tous retourner dans une salle, ça sera cool, quoi.
Premier concert test cet après-midi à Bercy. 5000 personnes dans la fosse masquées et testées pour écouter Indochine. Nous serons avec Xavier Fischer dont la société va surveiller avec des caméras que tout le monde porte bien le masque. Dans l'actualité, l'enquête sur la tentative de meurtre à la Chapelle-sur-Erdre contre une policière municipale. La piste terroriste n'est toujours pas retenue pour l'instant. Nous verrons ce que l'on sait de l'assaillant radicalisé depuis plusieurs années. Le feu vert de l'Agence européenne du médicament pour la vaccination des ados de 12-15 ans avec le vaccin Pfizer. Mais attention, dit le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale. Nous serons avec le professeur Michel Kazakhstine qui vient de participer au rapport sur la gestion de l'épidémie par les États et par l'OMS. L'actualité sportive J-1 avant le coup d'envoi de Roland-Garros. Vous verrez qu'on s'active dans les allées pour accueillir le public et les joueurs. Le football avec une finale 100% anglaise pour la Ligue des Champions ce soir entre Manchester City et Chelsea. Et un entraîneur, un certain Thomas Tuchel, qui aimerait bien prendre sa revanche après avoir été remercié par le PSG. Et puis la météo, bonne nouvelle, le soleil est présent partout. Enfin à 13h, vous le savez, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On embarque à bord du train de nuit Paris-Nice relancé, car plus écologique, ce roulis vous rappellera sûrement des souvenirs. Et puis plongé au cœur d'une formation du GIGN pour aider les élus locaux à faire face à l'agressivité de certains administrés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on en rêve depuis des mois, retrouver l'ambiance des concerts collés les uns contre les autres. Eh bien, c'est l'expérience que vont vivre cet après-midi à 17h, couvre-feu oblige, 5000 personnes à Bercy. Au programme en première partie, le DJ Étienne de Crécy, puis le groupe Indochine. Alors attention, je parle bien d'expérimentation, car il s'agit d'un concert test où toutes les précautions ont été prises en amont pour éviter des contagions avec tous les participants qui ont réalisé des tests ces derniers jours. Concert que vous allez suivre pour Europe 1 Angèle Châtelier et qui va se dérouler quasi comme un concert normal.
Oui, certes, les spectateurs seront masqués, mais ils pourront être debout dans la fosse, s'agglutiner les uns sur les autres en dansant devant Étienne de Crécy qui ouvre le bal, puis Indochine. Ça, c'est ce que rappelle Constance Deloguer, virologue à l'hôpital Saint-Louis, qui coordonne le concert test.
Tout se passe dans la fosse de l'Accor Arena en jauge réelle, et donc il faut imaginer que c'est 2 à 3 personnes par mètre, donc vraiment à l'opposé de tout ce qu'on entend depuis 18 mois. Hein.
Pour ça, les volontaires ont dû venir à l'Accor Hotel Arena ces 3 derniers jours pour se faire tester. C'est là que j'ai pu rencontrer Marion, 34 ans, pour qui participer à ce concert test, c'est avant tout un acte citoyen.
Si ça peut accélérer les choses pour qu'on puisse tous retourner dans une salle, ça sera cool, quoi.
Mais Marion ne sera peut-être pas dans la salle ce soir, car 2500 volontaires ont été prévenus par mail et priés de rester chez eux. Ça fait partie de l'expérimentation pour évaluer la propagation du virus lors d'un tel événement. Donc, tout le monde devra se refaire tester dans 7 jours. L'idée, ce n'est pas vraiment de sauver les festivals de cet été, qui eux seront en version assis, mais d'espérer pouvoir reprendre les concerts debout à l'automne, car le résultat de cette expérience scientifique, lui, sera connu à la fin du mois de juin.
Voilà pour les précisions d'Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. Bonjour Xavier Fischer.
Bonjour Fabien Lemoyne.
Vous êtes à la tête de la société Catacalab. On a vu toutes les précautions que vient de décrire Angèle Châtelier pour éviter les contaminations, notamment le port du masque essentiel. Et justement, c'est votre société qui va regarder si on porte bien le masque avec des caméras, je crois. Expliquez-nous comment.
Exactement. En fait, on est ravis de faire un partenariat de recherche avec l'APHP. Ce qu'on va chercher à faire, c'est assez simple, c'est à quantifier le nombre de personnes et le taux de port de masque pendant tout le concert. Je vais vous donner un chiffre. Si on devait analyser manuellement tous les visages de tous les gens, donc des 5000 personnes pendant les 2 heures de temps, on aurait à analyser environ 72 millions de visages pour voir s'ils sont masqués ou non. Donc c'est un travail qui n'est pas humainement faisable. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé, nous, chez Datacalab, de créer des algorithmes qui analysent les images pour sortir d'abord le nombre de personnes qui sont présentes à un endroit donné et ensuite qui comptabilisent si le masque est bien porté ou non. bien portée voulant dire masque au-dessus du nez. Le but, c'est simplement, de façon statistique, d'arriver à voir en fait à quel moment le masque est un peu moins bien porté, parce que je pense que, et vous et moi, on est conscient que même si on veut garder son masque tout le temps, parfois, il passe un peu en dessous du nez, et dans des conditions de concert debout, bah, ça peut arriver.
Alors justement, et donc, notre but, c'est... l'idée, Xavier Fischer, puisque vous allez transmettre ces données à des médecins, aux médecins de la PHP, c'est de voir combien de temps on supporte justement un masque correctement et peut-être au-delà duquel il ne faut pas qu'un concert se poursuive.
Exactement, c'est de voir en fait à quel moment le masque est un peu moins bien porté, à quels endroits les gens portent un peu moins bien le masque, à quel moment il y a trop de gens à un endroit donné. Et en fait, on va utiliser les caméras de l'Accor Hotel Arena, et on en a installé quelques-unes en plus en partenariat avec le Prodis qui organise le concert, pour justement identifier en fait si c'est dans la fosse, si c'est aux entrées, aux sorties, que le masque est plus ou moins bien porté. Je tiens à préciser que tout ça, c'est vraiment fait de façon statistique. Notre but, c'est de faire exactement l'inverse que de la surveillance. En fait, si vous voulez,
oui,
si on analyse des images pour reconnaître...
dire aux gens qu'il faut bien porter le masque, ça reste anonyme, hein. Les données ne seront pas conservées, c'est ça?
Vous savez, justement, pour reprendre l'exemple des concerts, quand vous allez dans des concerts, il y a des gens avec des cliqueurs à l'entrée qui vont compter le nombre de gens qui rentrent et qui sortent. On fait pareil, sauf que nous, on est capable de compter d'abord le nombre de personnes et si le masque est bien porté ou non. Le bon exemple, c'est de se dire que si vous passez deux fois devant l'une des caméras cet après-midi, vous êtes compté comme deux personnes différentes, de la statistique et jamais du fichage. C'est pas fait pour verbaliser, pour identifier, c'est vraiment de façon à voir, en fait, sur des grandes masses, à quel moment... Ben, ces signaux-là descendent.
Merci beaucoup Xavier Fischer d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 et bon concert. Alors, ce concert test intervient alors que la situation sanitaire s'améliore. Près de 11 000 contaminations enregistrées quand même hier encore en France. Moins de 3 200 personnes en réanimation, mais encore 18 000 personnes hospitalisées pour Covid. Du côté de la vaccination, ça pourrait s'accélérer encore en France avec le feu vert donné par l'Agence européenne du médicament pour vacciner les 12-15 ans avec le vaccin Pfizer, Anne Le Gall.
Voilà, et ce vaccin Pfizer qui est déjà utilisé chez les mineurs aux États-Unis et au Canada devient donc le premier à être autorisé pour les plus de 12 ans en Europe. Les adolescents recevront 2 doses comme les adultes. Les données cliniques ont confirmé que la réponse immunitaire dans cette tranche d'âge est équivalente, voire supérieure à celle des adultes pour prévenir les formes graves du Covid. Et ce vaccin est également bien toléré. Pas d'inquiétude majeure sur d'éventuels effets secondaires, indiquent les experts européens. Alors dans les faits, les adolescents sont moins touchés que les adultes par les formes graves du Covid, mais comme ils peuvent transmettre le virus, leur vaccination permettra d'atteindre plus vite l'immunité collective. L'Allemagne a annoncé son intention d'inclure les adolescents dans la campagne dès le 7 juin. En France, pas de calendrier pour l'instant, mais la Haute Autorité de Santé doit rendre un avis sur cette vaccination des 12-16 ans en milieu de semaine prochaine.
Voilà, coup d'accélérateur de la vaccination pour les plus jeunes en Europe. Mais attention, disait hier le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie n'est pas finie. L'épidémie ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale. Notez qu'à 12h45, nous serons avec le professeur Michel Kazakhstin, ancien directeur de l'ONU SIDA, qui est l'un des experts indépendants qui vient de rendre un rapport à l'occasion de la 74e Assemblée mondiale de la santé, justement pour savoir comment les États et l'Organisation mondiale ont géré cette crise totalement inédite et surtout, quelles leçons en tirer.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
12h38 sur Europe 1 et au lendemain de l'attaque de la chapelle sur Erdre en Loire-Atlantique, la policière municipale qui a été grièvement blessée n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs ni la femme que l'assaillant a séquestrée dans sa fuite. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur la policière municipale et sur des gendarmes. La piste terroriste pour l'instant n'a pas été retenue et on en sait plus sur l'assaillant qui s'est radicalisé il y a plusieurs années, Marion Dubreuil.
Oui, radicalisé, bien connu de la police et de la justice, mais jamais condamné pour des faits de nature terroriste. Il venait de purger une peine de 8 ans de prison pour vol à main armée, et c'est au cours de cette détention qu'il avait adopté une pratique rigoriste de l'islam. Il figurait depuis 5 ans au fichier des personnes signalées pour radicalisation, mais au bas du spectre. Il était également schizophrène, avec des phases délirantes. À ce stade, aucune revendication djihadiste n'a été retrouvée. Les enquêteurs exploitent en ce moment son téléphone portable, sa tablette, saisie au domicile qu'il occupait depuis sa sortie. sorti de prison en mars dernier. Les auditions de la policière municipale et de la femme qui l'a séquestré dans sa cavale seront aussi déterminantes pour savoir si le suspect leur a fait part de ses motivations. C'est seulement après ces investigations que les magistrats du parquet national antiterroriste décideront ou non de se saisir de cette affaire.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Deuxième week-end d'ouverture pour les commerces dits non essentiels. Un week-end crucial d'autant plus qu'il y a la fête des mères demain, l'occasion de faire des cadeaux. Alors vous êtes rue du commerce à Paris, Romain Hougues. Nous étions la semaine dernière au même endroit avec Caroline Baudry et ça ne se bousculait pas. Verdict ce samedi.
Eh bien, il y a quand même du monde dans cette rue depuis l'ouverture des boutiques à 10h ce matin. C'est le moment pour beaucoup de faire ses cadeaux de fête des mères, parfums ou petites robes, en prévision des beaux jours. Venu avec ses trois petits, Nicolas, lui, a choisi des bijoux et pas question de les acheter en ligne.
Si on peut faire vivre les commerces, c'est toujours plus intéressant d'être en contact direct avec le commerçant. Puis les enfants sont contents de faire un cadeau à leur maman, donc on fait ça en famille.
Et forcément, derrière le comptoir, dans sa boutique de prêt-à-porter, Olivia a le sourire. Cette veille de fête des mères représente pour elle une réelle opportunité.
On l'attendait avec impatience. C'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on prépare la fête des mères. On a mis en place des petits cadeaux, en plus des achats pour cette occasion. C'est important pour les caisses, donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura du monde aujourd'hui.
Même chose si Audrey, elle s'active dans son magasin de vêtements qui fait le plein depuis ce matin.
Ça ressemble plus à une première journée de solde. Là, pour un redémarrage, du coup, c'est une opportunité de faire plus de ventes. En termes de chiffres, on attend un plus 20% sur la journée par rapport à l'année dernière. C'est super.
Et en bonus, aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Voilà, qui promet donc une bonne journée pour les commerçants de la rue.
Voilà, le soleil au rendez-vous, ce que nous confirmera dans quelques minutes Valérie Darmon. La mobilisation cet après-midi des partisans des langues régionales pour défendre leur enseignement après la décision du Conseil constitutionnel de retoquer une proposition de loi du député breton Paul Molac qui défendait justement les langues régionales en milieu scolaire. En Bretagne, c'est à Guingamp que la manifestation est prévue. La Bretagne qui compte plusieurs dizaines d'écoles diwan où l'on apprend tout en breton depuis plus de 40 ans, comme celle où s'est rendu Charles Guyard à Nantes.
Il est 16h et dans la classe de Corinne, les enfants de 2 à 4 ans terminent la journée en chanson, ici avec cet air bien connu, Frère Jacques, ou plutôt Mabre Jacquet. Comptine, mais aussi mathématiques, histoire, géographie, tout ici se fait en breton dès la toute petite section. Et le français dans tout cela?
Le français n'est pas une langue étrangère ici.
Naya Hay, coprésidente du réseau Diwan de Nantes.
Dans les apprentissages, elle intervient en CE1 pour apprendre la grammaire, la conjugaison, comme ça se fait en cours de français dans les autres écoles. L'enfant, lui, il aura le même niveau au bac, il aura le même niveau en français à l'issue de son cursus au Diwan.
De fait, l'établissement sous contrat avec l'éducation nationale suit exactement le même programme, mais en breton donc, ce qui arrange d'ailleurs bien Lila, élève de 6e.
Ça te sert à quoi?
À discuter secrètement avec les copains.
Comme ça, les parents ne comprennent pas.
Oui.
Des parents qui, eux, assurent que l'immersion facilite l'apprentissage des langues chez leurs enfants.
C'est vraiment une façon idéale de modeler le cerveau à n'importe quelle autre langue après.
Et pour vous, en tant que maman, c'est pas trop dur de faire ses devoirs à votre enfant?
Alors, pendant le confinement, je me suis dit pourquoi je l'ai inscrit en école bretonne? Parce que je ne parle pas breton. Mais c'était pas un problème.
Et la Bretagne compte 48 écoles, 6 collèges et 2 lycées diwan, accueillant 4000 élèves. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
À l'étranger, en République démocratique du Congo, les habitants ont fui toute la semaine Goma avec la peur de l'éruption du volcan Nyiragongo qui surplombe la ville entre tremblements de terre qui, heureusement, ont diminué en intensité ces dernières heures et coulées de lave. Près de 400 000 personnes ont fui sur les routes vers le Rwanda notamment, où des camps de fortune ont commencé à être installés. Écoutez, Mégo Terzian, il est président de MSF France, il est en lien avec les équipes dans la région.
C'est la fatigue, c'est le panique, c'est le chaos. Des gens qui fuient en toute vitesse et par conséquence, beaucoup d'accidents de route. Donc on reçoit depuis 2 jours plus de patients avec du trauma et moins de patients avec des fractures ou brûlures ou etc. Liées au problème du volcan. On va essayer d'organiser aussi l'aide en termes d'abri pour ces gens-là. La distribution de l'eau et l'alimentation seront des priorités et j'espère qu'il y aura d'autres humanitaires qui vont intervenir parce que seul, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir être à la hauteur des attentes.
Mégo Terzian, le président de MSF France, qui répondait aux questions de Marion Gauthier. L'actualité sportive à 12h44 sur Europe 1 avec le coup d'envoi demain d'édition 2021 de Roland-Garros, Europe 1 radio officielle de ce tournoi, sous le soleil et avec du public. Johanna Chabas, vous allez nous faire vivre cette quinzaine côté coulisses et tout le monde s'active dans les allées pour que tout soit prêt demain, vous m'avez dit.
Oui, c'est ça. Roland-Garros, c'est une fourmilière aujourd'hui. Les camionnettes défilent pour décharger de la nourriture. Les équipes techniques testent les haut-parleurs. Les stocks de gel hydroalcoolique sont remplis. Delphine et son équipe de jardiniers, eux, plantent les derniers massifs et de l'herbe fraîche.
Un peu de stress parce qu'il faut terminer dans les temps et puis on est fatigué parce qu'on a beaucoup travaillé. Mais voilà, envie de faire un truc propre et qui rentre bien. Il faut que tout soit nickel pour quand le public arrive, tout soit parfait, quoi.
Sur les courts, les joueurs, eux, s'entraînent. En ce moment même, c'est au tour de Rafael Nadal et de Roger Federer. Face à l'agitation ambiante, Virginie, elle, reste calme. Sur le mur de l'allée principale, elle est chargée de peindre à la main les noms de tous les joueurs sur le tableau des matchs.
Pour faire tous les prénoms, il me faut une bonne journée. Chaque année, je viens vraiment la veille du début du tournoi et je note. Et puis après, je fais une permanence. Dès qu'il y a un joueur qui a gagné, je le note. Alors au début, j'ai beaucoup de boulot. Puis après, c'est de plus en plus tranquille.
Un peu plus de 5000 spectateurs sont attendus demain. C'est la jauge obligatoire pour l'instant. Covid oblige.
Johanna Chabas et on trouvera Corinne Boulou dans Tout Terrain dans quelques minutes avec cette édition Roland-Garros qui va se dérouler dans une atmosphère quand même marquée par le Covid. Un mot de football avec une finale 100% anglaise pour la Ligue des Champions ce soir entre Manchester City et Chelsea avec comme entraîneur un certain Thomas Tuchel, remercié cette saison pour le PSG qui espère bien prendre sa revanche. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi et je le disais, Valérie Darmon, c'est plein soleil pour tout le monde.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Valérie Darmon, pour ce plein soleil.
Effectivement, les prévisions ont tourné en notre faveur. C'était pas tout à fait gagné. Le soleil domine partout, en dépit d'un léger voile nuageux sur l'ouest et le sud, des cumulus des Pyrénées aux Alpes et un risque orageux sensible, notamment sur la chaîne pyrénéenne surtout, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine. Côté température, au nord, la bise de nord-est est sensible et elle limite donc la montée des valeurs. Mistral et Tramontane soufflent modérément depuis quelques heures dans leur domaine. Vos thermomètres affiche cet après-midi 20 à Caen et Nancy, 21 à Nice et Charleville-Mézières, 22 à Paris et Chartres, 23 à Dijon et Saint-Étienne, 24 à Bourg-en-Bresse et Clermont-Ferrand, 26 à Marseille, 27 à Bordeaux et 28 degrés à Carcassonne. Demain, journée de la fête des mers, le temps va rester sec et assez bien ensoleillé avec tout juste des orages isolés, toujours sur le relief des Pyrénées et des Alpes du Sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, ne croyez pas que la pandémie est finie. L'épidémie ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population. Avertissement hier du directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Alors que se tient l'Assemblée mondiale de la santé depuis lundi en virtuel. Nous recevons dans un instant le professeur Michel Kazakhstine, ancien ambassadeur chargé de la lutte contre le sida et des maladies transmissibles, qui est l'un des experts indépendants qui vient de rendre un rapport sur la gestion de cette pandémie.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Ne croyez pas que la pandémie est finie, l'épidémie ne sera terminée qu'après la vaccination d'au moins 70% de la population mondiale. Voilà l'avertissement lancé hier par le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour professeur Michel Kazakhstine.
Bonjour.
Ancien directeur de l'ONU SIDA, vous êtes l'un des experts indépendants qui vient de rendre un rapport à l'occasion de la 74e Assemblée mondiale de la santé qui s'est ouverte virtuellement depuis lundi, organisée par l'OMS. Ce rapport, c'est évidemment sur la manière dont les États et l'Organisation mondiale de la santé ont géré cette crise totalement inédite. Mais avant de revenir sur les leçons à en tirer et le constat que vous avez porté, est-ce que vous partagez cette inquiétude du directeur Europe de l'OMS de penser que la pandémie est déjà derrière nous?
C'est certainement une erreur de penser qu'elle est derrière nous. Les choses vont mieux et vont, je pense, continuer d'aller mieux en Europe. Mais toutes les surprises sont encore possibles à l'avenir. Et surtout, si la vaccination a fait des progrès considérables en Europe, Ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Enfin, je ne parle pas ici des États-Unis, mais je parle essentiellement des pays à ressources limitées. Moins de 2% de la population a actuellement accès au vaccin dans ces pays. Et bien sûr, cela signifie que l'épidémie va continuer d'y progresser et que de nouveaux variants peuvent arriver, y compris des variants qui pourront échapper aux anticorps produits par les vaccins dont on dispose actuellement. Donc l'histoire est loin d'être terminée.
Quand est-ce qu'on pourra dire, Michel Kazakhstine, que cette épidémie est finie ? Je dis ça parce que vous avez été l'un de ceux qui avait été un expert mondialement reconnu justement de l'épidémie du sida. Donc quand pourra-t-on dire que cette pandémie a sa fin ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la fin. En termes de sida, ce que nous appelons la fin du sida, c'est une situation dans laquelle cette maladie n'est plus une menace de santé publique. Ça ne veut pas dire 0 cas, ça veut dire n'est plus une menace constante sur la santé publique des populations. Je crois qu'au moment où nous parlons, il est encore impossible de donner une date en ce qui concerne la COVID-19, même si, comme je le disais il y a un instant, il est très probable que à la fin de l'été, au début de l'automne, la situation se sera considérablement améliorée dans les pays européens, en tout cas en Europe de l'Ouest.
Alors justement, vous avez une vision mondiale de l'épidémie, pas auto-centrée, avec cette expertise que vous a donné justement ce rapport hein, qui porte sur la manière dont les États et l'OMS ont répondu à cette crise, je le disais, totalement inédite. Justement, la réponse n'a pas été assez rapide, on n'a pas pris au sérieux assez vite l'alerte lancée en janvier 2020 par l'OMS, particulièrement, j'ai envie de dire, en Europe.
Alors absolument, il y a eu des retards, il y a eu des erreurs, il y a eu de la rétention d'informations, il y a eu des complexités bureaucratiques à toutes les étapes des premiers mois de cette épidémie, tant au niveau de l'OMS, institution, qu'au niveau des pays, de ce que nous appelons les États membres dans notre jargon des Nations Unies. Notre analyse est que du temps a été perdu en janvier entre le moment où l'OMS apprend le 31 décembre 2019 qu'il y a des cas de pneumonie liés à un nouvel agent à Wuhan en Chine et le 30 janvier qui est le jour où le directeur de l'OMS déclare qu'il y a une urgence sanitaire mondiale. Nous pensons qu'il y a eu là probablement au moins une semaine de perdu parce que, à notre avis, l'urgence aurait pu être déclarée plus tôt sur la base de principes de précaution.
Et même quand elle est déclarée, l'Europe ne réagit pas, vous le dites dans votre rapport, tout de suite, ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer.
C'est absolument incroyable, c'est le niveau d'alerte le plus élevé que le directeur général de l'OMS puisse donner. Et personne ne répond, et l'Europe de l'Ouest, nos pays et la France ne commencent à bouger vraiment que vers le 10 mars ou le 15 mars. L'Italie un peu plus tôt, mais même lorsque la tragédie italienne se déroulait presque sous nos yeux, nous continuions d'avoir dans les autres pays européens une certaine incrédulité, comme si ça ne pouvait pas nous arriver. Des retards majeurs, et dès lors que nous avons pris conscience de la réalité de cette pandémie dans nos pays, il était déjà trop tard pour mettre en place des stratégies de tests, recherche de contacts et isolement. Et nous étions submergés, la seule solution c'était le confinement. Par contre, dans les pays, un certain nombre de pays asiatiques comme la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et la Chine elle-même, qui avaient connu le SARS, qui en avaient fait l'expérience, le SARS qui était une épidémie liée à un autre coronavirus, ces pays-là n'ont pas attendu. Dès les premières semaines de janvier, ils ont commencé à fabriquer, produire leurs tests diagnostiques, attestés, isolés, et ces pays n'ont pratiquement pas vu de mortalité. Et en Chine, il y a certainement eu un grand nombre de victimes, probablement plus que ce qui n'a été dit, mais l'épidémie a bien été arrêtée très tôt.
Professeur Kazakhchine, je vais terminer avec une question sur la vaccination, justement, et les leçons à tirer par rapport à cette rapidité, ce retard à l'allumage. Est-ce que, et je reviens à ce qu'on disait au début, vous n'avez pas peur, justement, qu'il y ait un peu une vaccination à deux vitesses? Vous le disiez, 1% seulement de personnes vaccinées en Afrique, alors qu'on est à des taux qui dépassent, évidemment, par exemple, pour les États-Unis, presque 40% aujourd'hui. Et c'est pas ça le danger,
oui,
justement?
Ce décalage est très dangereux. Parce que tant que l'épidémie continuera de se poursuivre dans ces pays qui n'ont pas accès au vaccin, le virus va continuer de muter et potentiellement à produire des variants qui pourraient revenir vers les pays occidentaux. Mais surtout, la situation est insupportable en termes d'inégalité. Souvenez-vous, puisque vous avez mentionné mon implication dans le sida, quelle était la situation en 1996. Bernard Kouchner disait « les médicaments sont au nord, les malades sont au sud ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde. Vu de France, on ne se rend pas compte qu'au moment où nous parlons, l'épidémie n'a jamais été aussi grave et aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ce, parce qu'elle est en Inde, elle est en Asie, elle est en Afrique, elle est en Amérique latine. Et quelque part, la complaisance s'installe assez rapidement dès lors que le danger s'éloigne chez nous.
Merci beaucoup Michel Kazakhchine, je rappelle ancien ambassadeur chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles et de l'agence ONU Sida. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 avec ce rapport. Et on entend cette vigilance à laquelle vous appelez par rapport à l'épidémie qui est loin d'être terminée. Merci à vous. Vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur une formation des GIGN pour aider les maires à faire face à l'agressivité de certains administrés.